du Centre-Ville vous propose quelques bons endroits où acheter vos produits équitables, produits naturels, produits biologiques et encore plus. Voici un de nos partenaires.
Dans l'effervescence du marché Jean Talon, vous trouverez un endroit unique en son genre, l'épicerie Alfalfa. Venez visiter notre équipe chaleureuse, prête à répondre à vos questions et à vous offrir une gamme variée de produits naturels, équitables et biologiques de qualité.
Radio Centre-Ville vous invite à découvrir ses partenaires de choix. Afin de les connaître, visitez radiocentreville.com.
C'est le temps d'acheter vos billets de loterie.
La loterie annuelle de Radio Centre-Ville est lancée.
C'est le moment. En achetant vos billets de loterie, vous participez au financement d'une radio indépendante, pertinente et multiculturelle. Vous courez également la chance de gagner un des prix suivants.
Deux vélos offerts par SOS Vélo.
Un GPS portatif offert par H. Grégoire.
Des billets pour le Festival de Jazz de Montréal offerts par Spectra.
Des billets pour l'édition 2008 des Francofolies de Montréal offerts par Spectra.
Un certificat cadeau pour un ordinateur offert par Insertec.
Et deux séries de billets au concert de l'Orchestre Métropolitain. Les tirages se feront le 29 juin à 15h30 sur les ondes de Radio Centre-Ville au 102,3 FM.
C'est le temps de supporter votre station préférée. Procurez-vous vos billets de loterie en nous visitant au 5212 boulevard Saint-Laurent ou rejoignez-nous au 514 495 1540 495 1540.
Bonjour tout le monde, ici Jeannie Autrin-Lajoie. Je vous souhaite la bienvenue à une nouvelle édition de Radio Thémique. En studio, je suis accompagnée de Benoît Guérin, qui devient à partir d'aujourd'hui chroniqueur associé à l'émission. Alors, bienvenue Benoît, et je me réserve d'ailleurs les 15 dernières minutes de l'émission pour mieux vous le faire connaître et lui poser toutes les questions indiscrètes qui me viendront en tête à ce moment-là. Mais auparavant, j'aimerais vous dire quelques mots sur ce qui nous attend, quelles sont nos intentions pour les prochaines émissions. Au départ, Radio Tonique s'était donné comme slogan de présenter des gens qui changent le monde. Nous avons reçu effectivement des architectes, des écologistes, ainsi que d'autres professionnels qui s'impliquent directement à améliorer la qualité de vie individuelle et collective sur la planète. Souvent, ces gens questionnent les lois, les événements, proposent des solutions pratiques, de nouveaux modes de vie, de nouvelles pratiques collectives, afin de mieux gérer les ressources, les dépenses, et surtout, je crois, notre immense désir de consommation. Les intervenants d'Oxfam, d'Équiterre, de Greenpeace, d'Amnesty International et de combien d'autres organismes de ce genre sont certainement des gens qui changent le monde. Et nous allons continuer à les recevoir ici, pour vous. Mais en réalité, tous ces organismes ne pourront réussir là où la majorité d'entre nous ne sont pas motivés à les suivre. Nous devons absolument apprendre à nous sentir directement impliqués dans un nouvel ordre mondial si nous voulons que nos enfants et nos petits-enfants puissent jouir d'une qualité de vie acceptable. En ce sens, chacun de nous change le monde. Petit à petit, jour après jour, évidemment, à travers les petits gestes du quotidien. Et c'est ainsi qu'il peut devenir ce monde un lieu propice à l'être humain ou encore un lieu de plus en plus hostile. Changer le monde, c'est donc et d'abord se redonner le pouvoir d'intervenir individuellement et collectivement. Nous faisons face présentement à des problèmes assez cruciaux, urgents, dans le domaine de la répartition des ressources, dans le domaine de la santé, dans le domaine climatique. Avez-vous l'impression d'avoir un pouvoir sur la gestion de ces événements qui nous touchent très personnellement? Nos gouvernants, nos entreprises se comportent-elles comme vous le souhaiteriez? Sentez-vous que vous pouvez y faire quelque chose, réellement? Que chacun réponde honnêtement à cette question-là. Moi, de mon côté, j'ai plutôt l'impression, souvent d'ailleurs, quand j'entends les nouvelles à la radio et tout ça, que je me sens impuissante à intervenir là où une poignée de gens se sont appropriés tous les pouvoirs de décision. Comme je le disais, nous sommes face à des questions épineuses. J'ai pas besoin de vous le rappeler en détail ici. Nous y reviendrons d'ailleurs dans l'émission. Ce dont je vais vous parler plus spécifiquement ce matin, c'est qu'il est dorénavant nécessaire que nous nous sentions tous concernés par l'avenir de notre planète et l'avenir de notre race. Vous le savez. Mais il faut commencer quelque part. Et ce quelque part, je crois que c'est d'être heureux en soi-même. Ne pas commencer là, c'est mettre la charrue avant les bœufs, comme dit le proverbe québécois. Et la première pierre à poser, si l'on veut être heureux, c'est de s'estimer soi-même et d'apprendre à estimer la petite collectivité où nous vivons, notre famille, puis éventuellement notre quartier, notre ville, notre province, jusqu'à réaliser peut-être un jour que nous sommes en réalité citoyens de cette grosse boule bleue qui flotte dans l'espace infini. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans les semaines à venir. Vous comprenez bien que ces choses-là m'intéressent particulièrement puisque j'ai fait une maîtrise en psychologie justement pour comprendre comment fonctionne cette bibitte humaine fort sympathique, mais du reste fort complexe aussi. Une fois que nous avons trouvé le moyen d'être heureux, je dirais que le reste découle automatiquement. Nous devenons plus lumineux, plus vivants, et cela se répercute aussi bien dans le milieu familial, le milieu de travail, le milieu social en général. Lorsque nous sommes heureux, nous obtenons le pouvoir de mettre de la vie autour de nous. Je vous proposerai donc, au fil des semaines, des moyens concrets afin de bâtir cette amitié-là avec vous. C'est le point de départ. Si nous voulons retrouver la force d'être solidaires et complices un jour d'un futur qui nous appartient déjà. Nous désirons vous entendre à ce sujet aussi à l'émission. Vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse suivante, radiotonique@live.fr. Je répète l'adresse, radiotonique@live.fr. De même, si vous connaissez une personne ayant pris une initiative pour changer le monde, signalez-le en nous écrivant à radiotonique@live.fr. Et lorsque je parle ici d'événements qui changent le monde, je n'ai pas nécessairement en tête des grands rassemblements de 10 000 personnes dans une marche sur la rue Sainte-Catherine. Ce sont plutôt de petits gestes qui sont posés au niveau de la famille, au niveau du quartier, au niveau de l'école, mais qui ont un sens et qui permettent à chacun de se retrouver dans ce qu'il y a de significatif dans la vie. Je vous donne un exemple. Je me retrouvais cette semaine dans le quartier Villeray. J'avais passé devant une école, l'école Hélène Boulay. Alors là, en arrivant près de l'école, je me suis rendu compte qu'il y avait un attroupement où il y avait des policiers, il y avait les enseignantes de la garderie, ainsi que plusieurs enfants qui se tenaient sur le trottoir. Et lorsque je me suis approchée de cet endroit-là, il y a un policier qui m'a fait signe d'arrêter et il y a une petite fille de 4 ans, à peu près 4 ou 5 ans, qui s'est avancée vers moi avec un feuillet à la main en me disant « C'est important pour moi que vous arrêtiez ou que vous ralentissiez devant la garderie. » Alors, je vous signale cet événement-là pour vous dire ceci. Donner une information, c'est une chose. La faire passer par le cœur, c'est sûr que c'est 100 000 fois plus efficace. Et la façon dont la garderie avait planifié cet événement-là me semblait très original parce que ça permettait à chaque automobiliste de réaliser la valeur du geste de ralentir devant une école. On sait tous qu'il faut ralentir à 30 km/h devant une école. Mais ce que l'on ignore souvent, c'est qu'on le fait pour quelqu'un. On le fait pour un enfant, on le fait pour une petite fille qui est là. Maintenant, vous pouvez être sûr que quand je vais passer devant une école, n'importe quelle école, je vais revoir ces yeux-là et je penserai à ralentir. Alors, c'est un bel exemple d'événement bien structuré qui permet un changement dans le tissu social parce qu'il s'adresse à l'individu dans son ensemble. Voici donc ce qu'avait à dire l'organisatrice de cet événement, Madame Marie-Josée Proux.
C'est la semaine des services de garde et on veut se mettre en valeur et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de personnes qui roulent trop vite dans les zones scolaires. Alors, on a une journée pour la sensibilisation pour les zones scolaires. Il y a la collaboration des policiers et chaque enfant remet un avis de courtoisie pour qu'il roule 30. Et à l'intérieur, il y a les pénalités qu'ils peuvent avoir s'ils roulent trop vite.
À l'intérieur, vous voulez dire?
Du circulaire, du pamphlet que nous avons fait, l'avis de courtoisie.
Et quelles sont ces pénalités? nationalité?
Ça varie soit du kilométrage.
Une tape sur les doigts.
Soit du kilométrage ou aussi il y a les cellulaires qui vont rentrer en vigueur au 1er juillet. Alors, il y a plein d'informations à l'intérieur du billet de courtoisie. Alors, au lieu d'avoir des vrais billets, ils ont des billets de courtoisie qui leur diraient combien ils auraient pu perdre de points et combien ils auraient payé l'étiquette.
Est-ce que vous êtes la seule garderie à avoir cette initiative-là aujourd'hui?
C'est la semaine des services de garde. Alors, tous les services de garde font leur activité et nous, on a décidé, je suis la responsable du service de garde, alors on a décidé que cette journée-là, on sensibilisait les conducteurs.
Marie-Josée, merci beaucoup.
Merci à vous.
Nous allons maintenant passer à la pause pour revenir avec la première chronique, devrais-je dire, de M. Benoît Guérin. Alors, à tout de suite.
Le soleil, tout autour du cœur des pauvres, quand on sera comme
il vend, il peut, il gagne.
Retour en studio, mesdames et messieurs, il est 9h18. Écoutez, c'est un événement ce matin puisque nous accueillons pour la première fois en tant que chroniqueur Benoît Guérin, qui aime bien dire de lui qu'il est un citoyen du monde et avec raison, n'est-ce pas Benoît?
Oui, oui, oui.
Alors, tu voulais nous parler pour ta première chronique ce matin de...
D'OGM en
D'OGM.
Particulier.
Oui. OK, alors c'est un sujet qui est vraiment là, à l'ordre du jour ces temps-ci avec la sortie du film...
Le
monde de Monsanto, qui est un très beau film en passant que j'ai vu. Alors, je te laisse aller.
OK. Alors, comme c'est une première chronique, juste vite fait, juste pour dire qu'effectivement, cette chronique-là, elle se voit comme une chronique où, comme citoyen du monde, on s'assoit autour d'une table ronde un peu virtuelle. On est à la radio, n'est-ce pas? Alors, pour réfléchir, s'exprimer, puis même partager, là. Dans la chronique, on donnera comme des références comment se rejoindre, puis comment pouvoir se parler entre les auditeurs, puis moi, puis nous, en fait. Et puis, et trouver des pistes d'action comme citoyen du monde. Ben, sur quoi? Sur quel genre d'action? Bon, mais évidemment, c'est des actions qui peuvent améliorer notre qualité de vie, d'accord? Puis, en particulier avec l'époque à laquelle on est, là, ben, c'est aussi permettre notre survie, hein? Comme citoyen du monde, on sait qu'il y a des problématiques importantes, là, on va pas revenir là-dessus aujourd'hui, réchauffement climatique, conflits armés importants, etc. Alors, on sait qu'on n'est pas juste des citoyens de Montréal, on l'est, là, puis c'est hyper intéressant, ou du Québec, on n'est pas juste des Québécois ou des Montréalais, on est aussi ces citoyens du monde-là, il faut s'en préoccuper. Alors, on va essayer de voir les sujets dont on se préoccupe peut-être pas autant que l'importance qu'ils pourraient avoir à l'échelle planétaire pour notre survie, entre autres, puis pour notre mieux-être. Alors, sans plus tarder, entrons de front dans le sujet d'aujourd'hui, qui n'est pas un mince sujet, avouons-le. Alors, c'est peut-être une des raisons pourquoi ces sujets-là sont souvent passés plus rapidement, ou pourquoi on s'y attarde un peu moins qu'on le devrait. C'est souvent parce que OGM...
Et on les oublie aussi.
Et on les oublie, effectivement. D'ailleurs, je vais placer ça en début. Je vais vous dire, il sort un documentaire, là. Pour les gens un peu plus au courant de ce truc-là et qui se tiennent au courant, ils vont faire comme « Wow! Documentaire choc! Le monde selon Monsanto! » Si vous avez entendu parler un peu, les grands médias l'ont touché rapidement quand c'est sorti, il y a une semaine et demie. D'accord, ils l'ont vu. Il y a des gens qui y vont, mais attention, là, faut s'entendre, c'est pas dans tous les cinémas du Québec, là, présentement, là. Ça joue à l'excentrice. Point. Alors, on s'entend qu'on n'est pas à quelque chose de grand déploiement, là. On est à... pourtant, ce documentaire-là, pour les gens qui ont assisté, il fait figure de documentaire choc, là, vraiment. Juste pour vous dire, il y a 10 ans à peu près, en 1999, un autre documentaire choc semblable a sorti. Il s'appelait « Main basse sur les gènes ». Ben oui, l'ONF avait produit ça et il nous disait à peu près les mêmes affaires, en citant Monsanto et compagnie, d'autres compagnies, en nous expliquant ce contexte-là qui, semble-t-il, nous touchait énormément. Bon, là, on parle de documentaire choc, comment tout le monde doit connaître ça, c'est choc. Moi, je vous le dis, le 27 mai dernier, j'étais dans une réunion. Moi, je suis prof en formation de la personne. J'enseigne en éthique, là, comment faire pour être heureux comme humain. À ma table, il y a toutes des profs de ce domaine-là. Sur tous les profs qui sont là, aucun n'a entendu parler de la sortie du film de Monsanto. Et aucun, sauf un, peut-être vaguement, aurait vu l'autre avant. C'est les gens là qui sont dans le milieu de l'éducation. Alors, ça a beau être choc pour certains, ça semble pas créer un choc partout, hein. On s'en
comment vous expliquez ça, le fait qu'on puisse avoir être face à un problème comme ça,
oui.
L'oublier au bout de deux semaines, on zappe sur d'autres choses?
Oui. Ben, je pense que le zapping dont vous parlez est quelque chose de fondamental. On a cette habitude-là, la nouvelle, hein. C'est passé, on le sait, on passe à d'autres choses. Est-ce qu'on le sait tant que ça? Est-ce qu'on est capable d'en parler? C'est quoi le savoir, hein? Mais bon, la nouvelle, on y va avec ça. Un. Deux, c'est complexe, les OGM. On va le voir aujourd'hui, on va essayer de le rendre très simple, là. Mais on va voir que rendre simple les OGM, c'est pas si simple que ça. Alors, on y va, sans plus perdre de temps. On va faire un petit tour. En 1950, à peu près, on découvre une molécule, les biologistes et compagnie, en fouillant dans le corps humain. Molécule qu'on connaît assez bien, là, quand on écoute un petit peu les nouvelles, un genre de spirale qu'on appelle l'ADN. L'ADN, tout le bagage génétique serait figé là-dedans. Et là, c'est la découverte, là. Si on connaît la génétique, là, c'est ce qui contient la couleur de nos cheveux, la couleur de nos yeux, comment notre santé va être faite, etc. Alors là, on dit « Wow, on sait comment c'est construit ». C'est pas comment ça marche, c'est comment c'est construit. On sait où sont les gènes dans l'ADN, etc. Mais évidemment, c'est pas comment ça marche, on vient de le découvrir. Ben, il y a des compagnies, c'est ce que ces documentaires-là nous apprennent, entre autres. Il y a un livre en passant, hein, « Le monde selon Monsanto » aussi, là. Mais il y a des compagnies, donc, qui prennent ça tout de suite. D'envoler, mon Dieu, on a découvert l'ADN. Eux autres sont dans le chimique, là. Ils sont en train de jouer avec les affaires dans le chimique puis dans le pharmaceutique. Ils sont habitués de jouer avec ces affaires-là. Alors, ils sautent là-dessus, ces compagnies-là.
C'est des tripeux de molécules.
Et c'est des tripeux de molécules, eux autres. Et ils découvrent un domaine où les molécules n'ont pas de loi. Évidemment, on vient de les découvrir. Pas de loi. Hein? Alors, ils partent, eux autres, puis ils se mettent à changer molécules de place. On appelle ça les biotechnologies. Ils appellent ça une technologie, les autres personnes les checkent, là. Ils s'en vont tout seuls, il y a pas de loi, il y a pas de... ou très, très peu. Alors, ils partent là-dedans. Alors, ils se mettent à jouer dans les biotechnologies. Un petit exemple, là, ils se mettent à jouer là dans les choses qu'ils veulent faire. Ils se disent, mon Dieu, il faut trouver des affaires utiles pour l'humanité. Par exemple, il y a des places qu'on peut pas cultiver les fraises ben longtemps, mais il y a des poissons dans l'Antarctique qui vivent, eux autres, au grand froid. On va prendre leur gène qui fait qu'un poisson peut toffer au grand froid, mais on va l'implanter dans la fraise. Qui, elle, peut pas toffer au grand froid, puis elle va pouvoir toffer plus longtemps. Alors, ils l'ont fait, là. On s'entend, là, un des documentaires dont je vous ai parlé, mais basé sur les gènes, nous explique ça. Ils font ça, ils nous les vendent. Pardon? Ah oui, parce qu'il n'y a pas de loi. Pas besoin de faire des expérimentations là-dessus. On apprend ça là-dedans. Là. La plupart des endroits, c'est...
Oui, je pense aux tomates carrées aussi, qui s'empilent mieux dans des boîtes. Là, tu sais.
Oui, je ne sais pas celle-là si en particulier, parce qu'il faut faire attention, des fois, c'est pas des expériences génétiques, c'est des expériences de croisage de plants.
Okay.
Celle-là, on les voit moins comme néfastes. Je pourrais pas parler de celle-là en particulier. Mais on connaît aujourd'hui, par exemple, un autre des choses qui sont allées faire. On dit, on va créer des céréales qui résistent à toutes les herbicides. Après ça, on va pouvoir shooter des herbicides dans le champ à grandeur, puis il ne restera plus rien sauf la céréale qui résiste parce qu'on y a mis un gène. Alors ça, c'est leur grosse bébelle qu'ils ont inventée. Alors, ils prennent le marché, comprenez-vous, il n'y a pas de loi. Alors, ils s'installent, c'est ce qu'on nous apprend là-dedans, ils s'installent un peu partout. À moins que, de temps en temps, il arrive des petits problèmes. Alors, il en est arrivé, par exemple, en Écosse, avec un dénommé Dr. Pouzaï, en 1998, qui fait des expérimentations là-dessus, parce que la Grande-Bretagne, elle, veut démontrer que les OGM, c'est bon, puis elle veut lancer ça en grande pompe. Problème, c'est qu'ils rencontrent des problèmes. En faisant ces expérimentations, ils se rendent compte que les rats ont le système immunitaire qui prend le bord, le foie, les organes vitaux, ils capotent. Ils en parlent à ses dirigeants, ça va sur la place publique. Et ça fait scandale en Europe. Lui, il a écopé beaucoup. si jamais vous allez voir le reportage, vous allez voir que, semble-t-il, que quand on joue dans l'étal de ces grandes multinationales-là, on peut se faire ramasser d'un coin. Lui, il est copé, mais en Europe, ils ont commencé à étiqueter les OGM, à tout le moins, partout. En fait, juste pour le bénéfice des auditeurs, il y a deux seuls pays d'un pays industrialisé qui n'étiquettent pas les OGM, et on est un de ces deux-là avec les États-Unis. Les autres étiquettent, et depuis longtemps, au moins on sait s'il y a des OGM dans ce qu'on mange, parce qu'il y en a dans une très grande partie de ce qu'on achète à l'épicerie, et on ne le sait pas.
Qu'est-ce qui a décidé ça, qu'on n'étiquetait pas les OGM ici?
Pour vous donner un exemple, là, d'un document que j'ai ici, là, le 7 mai passé, on annonçait que nos députés là, au fédéral, là, ils viennent de voter une fois de plus, malgré le fait, et c'est un gars de Greenpeace là, qui travaille sur le dossier, qui nous dit que les sondages qui sont sortis, Éric Darrier, les sondages qui sont sortis disent tout le temps qu'il y a 80 à 95 % de la population qui voudrait au moins qu'on étiquette, qu'on ait le choix. Nos députés, 156 voix contre, 101 voix pour, ils ont encore rejeté le projet de loi pour qu'on étiquette. Énigme.
On va réfléchir là-dessus pendant la pause. On a de quoi réfléchir pendant que vous prenez votre petit déjeuner aux OGM. Je comprends bien.
We'll be right back.
Alors, de retour en studio. Alors, il est 9h32 exactement. Écoute, Benoît, moi, ça m'inquiète énormément, là. Tu viens me parler des OGM. Je sais que j'en ai mangé ce matin. Je sais que je vais en manger ce midi. Ça se parle. Écoute, j'ai vu le film, puis je trouve que c'est un film qui est vraiment alarmant. Je vais... Et disons que... Attends un peu. C'est ça.
OK. C'est pas...
Alors, moi, j'aimerais ça qu'on en parle un peu plus. Qu'est-ce qui se passe exactement avec les OGM? Tu sais, parce que, écoute, ça fait partie de notre vie quotidienne. On est un des seuls continents actuellement en Amérique du Nord et même au monde à ne pas avoir d'informations là-dessus.
Selon ce qu'on nous dit là-dedans, c'est vrai. Et d'ailleurs, juste une parenthèse, Monsanto n'a pas contesté à date là, ce qui se passe là-dedans. Pas du tout, pas un mot. Hein. On s'entend, là, c'est le calme plat. Ils ne répondent pas à ça. Probablement qu'ils se disent, ben ça va passer. Hein. On est dans la nouvelle, on est dans le zapping. À un moment donné, on va arrêter de s'énerver. On va passer à un autre sujet parce que personne ne répond. Alors, c'est sûr que c'est une des choses qui nous interpelle. Hein. Comment se fait-il? On a quelqu'un, je ne sais pas si vous venez de l'histoire de Vincent Lacroix récemment, il emmenait pas mal moins large, là. C'était local, c'était ici, là. C'était pas à l'échelle de la planète qui faisait des fraudes, là, tu sais. En tout cas, c'était beaucoup moins vaste que ce qui est souligné dans les reportages qu'on voit. Comment se fait-il que cette compagnie-là, il y a aucune façon d'avoir une prise là-dessus. Évidemment, c'est pas nous, là, vous puis moi, là, qui avons des prises là-dessus directement, là. Mais ça vaut quand même la peine de souligner, de dire, c'est quand même quelque chose, là. Tout ça serait dit, ils ont payé, là, des sommes efférentes, ils en parlent dans le reportage là, pour des choses qu'ils ont faites, des millions en dommages, là, des gens que leur vie est ruinée, tout ça. Mais comment ils peuvent continuer à vivre? Monsieur Lacroix, on l'a mis derrière les barreaux, on l'a arrêté de bouger. C'est dur à comprendre comment on peut faire des choses aussi vastes et ne pas bouger. Et je parle pas que de Monsanto ou un autre, mais c'est pas de mettre des noms, mais c'est de dire comment on peut faire des choses comme ça. Alors, premièrement...
C'est de parler, en fait, de notre apathie à nous.
Oui.
On est apathique. On a-tu été piqué à quelque chose? Comment ça se fait que
ouais.
En Europe, tout le monde se préoccupe de ça, alors que nous autres, on dort au gaz ici par rapport à ça.
Mais je sais pas, peut-être qu'il y a du gaz un peu dans ce qui nous entoure. Hein. On peut se dire qu'on peut prendre une partie de la responsabilité, mais je pense que c'est important de voir qu'il y a des forts lobbies. On est à côté des États-Unis, hein. Il s'est souligné là dans les Monsanto, on parle de quelque chose qui a son centre nerveux aux États-Unis. Alors c'est un peu clair que nous autres, on est plus touchés par le fait qu'elle veut préserver son territoire. Là. Alors, mais ceci dit, on s'entend, là, il y a plusieurs compagnies là-dedans, on peut approfondir ça dans ces reportages, mais d'accord. Alors là, on va pas tomber dans ce qu'on tombe souvent, là, dans la dénonciation pure et simple de c'est qui les méchants, hein, de dire, on le sait, là, il y a des grandes compagnies, puis pourquoi nos gouvernements font rien?
Benoît, je pense que le problème, c'est pas c'est qui les méchants, c'est comment ça se fait que nous, on n'est pas plus actifs que ça par rapport à ce dossier-là, parce qu'une fois que nous, on va être actifs là-dedans, je pense que tout le monde va être obligé de...
En tout cas, on a juste un pouvoir sur nous-mêmes. Hein. On peut pas aller... on peut le dire à nos gouvernements, si on peut le faire, mais encore une fois, c'est nous qui devons le dire. Là. Effectivement, comme vous le dites, là, ça part de nous. Mm-hmm. Et si nous, on fait les pressions, ça pourrait partir de nos gouvernements, mais selon toute vraisemblance, ça part pas. On le voit bien. Il n'y a pas que nous qui écoutent nos gouvernements. Ils doivent écouter quelqu'un d'autre, parce que les sondages disent qu'on veut que ça soit étiqueté, puis ils étiquettent pas. Alors là, il faut en venir à l'évidence. Il s'agit de parler plus fort, parce que de la manière... ou parler plus souvent, ou parler autrement, mais il y a quelque chose qui se rend pas, de toute évidence. Alors, on fait comment? Un coup qu'on a placé ça, on regarde c'est quoi nos possibilités d'abord. Ben, la première qu'on a ciblée, puis on l'a vu dans l'entrevue à date, là, dans la chronique à date, c'est que si on zappe tout le temps, puis on n'approfondit pas les sujets, moi, les premières fois que j'ai entendu parler de ça, là, moi, j'ai la chance de faire ça comme métier. Là. Je l'ai vu à répétition, le premier reportage en Atlas, et je suis allé voir l'autre après. Et ça a pris du temps là, hein, avant que je puisse retenir les mots, les concepts, puis qu'est-ce que ça touche. C'est pas si évident que ça. Je suis pas un biologiste, là, moi. Alors, c'est long avant de pouvoir... Puis là, pour pouvoir le transmettre au gouvernement ou à un autre, au moins je suis capable de le dire. Alors ça demande quoi? Ben, ça demande, entre autres, qu'on voit, qu'on prenne le temps d'approfondir. On fait ça comment? Ben, on va renommer ce qu'on a dit très très vite en début d'émission pour permettre aux auditeurs qui auraient le goût d'approfondir sur leur bord de pouvoir le faire. Alors, on parle du film qui s'appelle Le Monde selon Monsanto. Il est à l'Excentrice et il sera en vente ensuite. Peut-être à l'ONF, mais sûrement sinon dans les bonnes librairies et compagnie. il est abordable, ce film-là. C'est pas des films qui coûtent une fortune non plus, là, on s'entend, mais il va être disponible. Il y a le livre qui est disponible, une trentaine de dollars. J'étais allé chercher chez Archambault, il est un peu partout. Il est numéro 2 d'un vendeur, quand même, il y en a qui le lisent.
Il est encore à l'affiche, Alexandris?
Il est encore à l'affiche, au moins pour cette semaine. Moi, j'ai été le voir en fin de semaine, et il était... L'autre film que je vous nomme, il est disponible à l'ONF. Il s'appelle « Main basse sur les gênes », extrêmement bien fait, avec Louise Vandelac, entre autres, qui nous parle de ça. Évidemment, ça rentre pas du premier coup, mais il est bien fait, il est intéressant, il y a un bon mouvement. Là. Elle a tenu compte du fait qu'il faut avoir le goût de l'écouter. Là. Alors, ça, c'est pour un. Donc, on peut approfondir. Pour deux, il y a peut-être une autre affaire qui fait qu'on bouge pas là-dedans. C'est quand on bouge tout seul, de notre côté, chez nous, on trouve ça difficile parfois. Alors, pourquoi pas s'allier? Alors là, c'est intéressant, on parle de citoyens du monde dans notre chronique, ben là, on en arrive à cette alliance-là. Moi, tout seul, là, j'aurais eu de la misère à faire un suivi ce dossier-là, même si je le voyais dans mes classes. Alors, je me suis allié, entre autres, à un gros organisme que beaucoup de gens connaissent dans les médias, mais souvent méconnaissent parce qu'ils connaissent juste les grandes lignes qui passent dans les médias, qui s'appelle Greenpeace. Ben, Greenpeace, elle a quasiment la taille d'un petit gouvernement maintenant. Ça roule avec des navires, etc. Alors, ça a les moyens de faire des pressions dans ces dossiers. Là, ça réussit pas toujours, mais il est à la base des ententes sur l'étiquetage en Europe, Greenpeace. Mm-hmm. Alors, il essaie, il travaille fort, et plus on est en arrière pour les aider, ou pour travailler avec eux autres, ou se tenir au courant. Par exemple, des organismes comme Greenpeace, ou un autre organisme possible, c'est l'INM, l'Institut du Nouveau Monde, qu'on a ici au Québec. Ils sont moins dans l'action qu'on pourrait dire que Greenpeace. Ils vont pas porter des tas d'OGM sur à la maison du premier ministre comme Greenpeace l'a déjà fait, mais de céréales avec des OGM. Mais par contre, ils réfléchissent, ils discutent sur les moyens, puis ils nous sortent de notre isolement. Alors, c'est une autre façon en allant, et ils font des débats genre sur les OGM à l'Institut du Nouveau Monde. Alors, moi, en me joignant à des organismes comme ça, ça me permet de, par exemple, recevoir une fois par mois, par mon courriel, des nouvelles de ce qui se passe dans ces dossiers-là, et aussi des invitations, des formes de réunions pour pouvoir discuter de ça. Alors, ça m'aide à me tenir vivant là-dedans. Un autre organisme dont on a un peu parlé il y a 15 jours, c'est le MapMonde, qui a un peu les mêmes prémices, qui nous dit qu'il faut sortir de l'isolement comme citoyen du monde, il faut s'asseoir à des tables où on discute, parce que sinon, à un moment donné, on n'a pas le goût d'agir. Le goût d'agir, eux, ils travaillent particulièrement là-dessus. Alors, ces trois organismes-là, vous pouvez les trouver sur Internet par des moteurs de recherche ben normal, mais je vais quand même donner rapidement leur adresse. Pour Greenpeace, vous rentrez www.greenpeace.org. Vous pouvez aller voir Greenpeace Canada en particulier et francophone, donc /Canada/FR. Ensuite, on a l'INM, www.inm, comme Maurice, .qc.ca, et MapMonde, www.mapes.org. Alors ça, c'est trois façons de briser l'isolement qui fait qu'on n'a pas le goût de bouger. Puis l'autre manière, si vous voulez échanger, c'est de me contacter directement. Alors, je vous donne l'adresse courriel où vous pouvez me rejoindre. Benoît Guérin, pas d'accent, pas d'espace, B-E-N-O-I-T, G-U-E-R-I-N, A commercial, Yahoo, YAHOO.com, C-O-M.
J'ajouterais alors, peut-être un autre moyen aussi, oui. C'est informez-vous donc sur l'email ou le courriel de votre député fédéral, aussi. Puis envoyez-y un beau petit message aussi.
C'est le genre de truc qu'on peut faire grâce à Greenpeace aussi. Des fois, ils nous font des lettres toutes faites, puis on peut les faire parvenir à notre député ou des organismes semblables. Fouillés, il y en a d'autres organismes. Là. On en nomme trois là, pour pas partir de rien, mais il y en a d'autres.
Je vais inviter quelqu'un de Greenpeace ici pour parler de ce dossier-là très bientôt.
OK. Ben, en tout cas, moi, je trouve que ça fait un peu le tour sur en quoi... Parce qu'on aurait pu continuer à dénoncer et à dire « Ah, c'est effrayant. » Mais je trouve qu'à un moment donné, à part de « c'est effrayant », il faut trouver « mais on fait quoi? » Alors, c'est intéressant qu'on puisse ici vraiment regarder ça ensemble. Puis, ce qui fait que ça va bouger, c'est ce qu'on va faire après cette émission ou après cette chronique-là. C'est ça qui est difficile à faire. Là. Quand on n'est plus avec quelque chose autour, ben on peut s'entourer. C'est une des choses qu'on a nommées.
Bon, alors ben non, on va à la pause une nouvelle fois, puis on va réfléchir là-dessus. En revenant, je vais finalement réussir à poser toutes les questions indiscrètes que j'ai en tête à ton sujet.
Ah bon?
Tu auras juste à te préparer pour te débrouiller là-dedans.
OK, c'est bon.
Alors, à tout de suite.
Bye.
je les digère pas. C'est comme au cinéma, y a de l'amour ça et là. Et les femmes les plus belles sont toujours infidèles. C'est comme au cinéma, ma vie je la vois comme ça, dans une caméra. Comme au cinéma, oh, c'est une réalité qui part en fumée sous ce flot de pellicule. Y a le temps qui s'accumule, et comme au cinéma, le dialogue est roi. Le rôle que je joue là, j'espère que c'est bien moi. C'est comme au cinéma, ma vie je la vois comme ça, dans une caméra. Comme au cinéma, une fois, un film de romance, un film de moi, place à l'animation, virtuelle sensation, cinéma d'espérance et de coexistence, une réalité qui a réalisé, tout est drôlement cadré, l'image est lavée, comme tout bon vieux ciné, y a des bons et méchants, reflet d'une vie remplie de fantaisie. Rempli de fantaisie, rempli de fantaisie. C'est comme au cinéma, ma vie je la vois comme ça, dans une caméra. Comme au cinéma, c'est comme au cinéma, ma vie je la vois comme ça, dans une caméra. Comme au ciné, comme au ciné, comme au cinéma. La 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 la, 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 la 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 la.
Alors, de retour en studio, il est 9h46 presque. Il fait 14 degrés à l'extérieur, un petit peu nuageux. Mais on peut sortir nos costumes de bain. On annonce du très, très beau temps fin de semaine.
Ah.
Très chaud même, avec un facteur humidex au-dessus de 30 degrés apparemment. Alors, Benoît Béguérin, nous revenons avec toi. C'est mon invité aujourd'hui puisque c'est aussi ta première chronique.
OK.
J'aimerais ça que tu puisses nous parler un petit peu de toi.
Okay.
Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu manges en hiver, tu sais?
OK. Professionnellement, pour commencer? Professionnellement, je suis principalement... Je dis principalement, par même temps, je mets un bémol. Je suis enseignant, ça c'est ce qui, c'est une job que j'aime beaucoup. Je suis enseignant au secondaire en formation de la personne, et je suis dans des cours qui me permettent beaucoup de créativité.
C'est quoi sa formation?
La formation de la personne, c'est des cours qui, pour résumer là, c'est des cours généraux sur comment faire pour arriver à être le mieux possible dans la vie. au niveau professionnel, mais surtout au niveau personnel. Donc, c'est par quel chemin on passe. Bon, ça a pris toutes sortes de noms au fil des années. Moi, j'ai peu enseigné les cours conventionnels comme morale ou ces cours-là qui avaient lieu. Qui
c'est la catéchèse évoluée, ça?
Catéchèse morale, on s'entend, ça disparaît au profit d'un cours d'éthique et culture religieuse, là, okay, généralisé au secondaire. Là. Ouais. Bon, ben ça, c'est le cours que je vais enseigner l'an prochain. Mais, entre autres, parce qu'il est jumelé à un autre cours que je vais enseigner qui s'appelle Projet intégrateur. Je suis en train de bâtir ça beaucoup avec mon équipe, là. Pas cette année, parce que je suis en sabbatique, mais quand même, je garde des liens avec le ministère, avec la commission scolaire pour pouvoir travailler sur ce genre de trucs-là. J'aime ça. Je trouve que c'est beaucoup, beaucoup de jus, là, parce que c'est des grosses tours de Babel. Alors, des fois, ça part dans le sens inverse, puis là, faut recommencer, et puis toutes sortes de trucs.
Moi, en tout cas, je trouve que t'es chanceux parce que tu travailles justement dans les Laurentides.
Oui.
Alors, c'est merveilleux, ça. Mais qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses à des dossiers comme les OGM, par exemple, ou d'autres dossiers?
Ben, c'est fondamental. Hein. Si, dans mon métier, je ne peux pas m'intéresser à la même chose, parce que je le fais, pour moi, pour être heureux, là, on ne peut pas passer à côté de ça. Pour être heureux, il faut toujours bien être vivant. Puis sur cette planète, présentement, il y a vraiment des dangers importants. Là. C'est des savants. Il n'y a rien de plus straight. Ils n'ont rien de prophète, ces gens-là. Là. C'est une très grande majorité de savants qui nous dit... on est à côté de nos pompes. On joue avec des dangers très importants et il faut s'y mettre. Alors, c'est tout le monde qui est invité à ce table-là. Il y a vraiment quelque chose à mettre en place. Et c'est pas un drame. Moi, je peux pas faire ça dans le drame, sinon je le ferai pas. Fait que j'essaie de le faire en ayant du fun. Fait que dans mes classes, c'est important. On fait pas juste réfléchir, on se parle aussi. On arrête, là, on se parle. Qu'est-ce que tu vis? Puis qu'est-ce que tu as? Puis parce que sans ça, on n'a pas le goût de rien faire. Hein. Il faut se tisser des relations intéressantes puis prendre le temps de respirer. Puis on voit aussi dans mes classes comment je fais pour être mieux dans ma peau. Tranquillement, on regarde des méthodes. On parle de présentement d'un cours qu'on enseigne, ça s'appelle Pensée humaine, présentement, là, avant éthique et culture. Par exemple, on va parler de comment ce qui se passe dans les thérapies, les groupes d'entraide, des trucs comme ça. Comment on peut avoir accès, nous, là, comme personne, là, pour améliorer. Si on a de la misère à être heureux, si on s'aime pas, si on se trouve pas beau, si on a de la misère à parler aux autres, on fait comment? Donc, on regarde les moyens. On va jusqu'à même regarder des moyens comme la pratique de l'attention. Les jeunes, comme tout le monde, ils connaissent pas ça, ces affaires-là. On aborde ça en classe, puis ça me rend heureux parce que ça me donne l'impression que là, on se met sur une piste. Je sais que tu l'abordais. Je pense pas qu'on peut aider le monde si nous-mêmes, on n'est pas minimalement bien. Alors, évidemment, on travaille aussi sur ma formation est en psychologie, en éducation, en orientation scolaire professionnelle, entre autres.
En fait, les deux sujets sont très attachés de tête. Même que moi, je me demande parfois si on n'est pas en train de vivre une dépression collective, tu sais, dans le sens que, d'abord, c'est sûr qu'on sait que ce sont les antidépresseurs qui se vendent le plus actuellement sur le marché, tu sais, ou presque. Alors, tu sais, je me dis, c'est peut-être pour ça qu'on se sent isolé.
Ouais.
Les jeunes sont isolés, les vieux sont isolés,
isolé.
Les pauvres sont isolés, tu sais. Alors, on est là toutes morcelées à quelque part, puis on se regroupe pas ensemble. Pourquoi? Parce que je pense qu'on n'a pas encore saisi qu'on peut avoir du fun ensemble.
Effectivement, moi aussi, je pense qu'il y a quelque chose. Puis c'est très très difficile. Hein. Une des raisons pourquoi je sors de ma classe, j'écris aussi. J'ai écrit un manifeste poétique là, que j'ai envoyé déjà à des gens à l'automne. J'ai aussi écrit d'autres textes dans ce cadre-là.
Tu m'as pas envoyé ça, Benoît?
Je pense que oui, là, mais t'as peut-être pas version finale. Mais là, je travaille là-dessus parce qu'on travaille aussi au niveau d'un site internet d'un organisme. Mais donc j'appelle pas ça du travail parce qu'en même temps faut que j'aie du fun, donc faut que ça soit aménagé d'une manière que j'ai assez de temps pour voir les petits oiseaux puis la nature puis tout le reste, hein, parce que sinon j'ai pas le goût de travailler. Je suis comme tout le monde, tu sais, j'ai besoin d'avoir des belles relations, d'avoir des belles relations avec la nature et tout là. Puis après ça, ben quand ça c'est fait, ben là j'essaie d'orchestrer ma vie pour que on voit qu'on a des possibilités pour tendre ces ponts-là au niveau de l'humanité. Parce que dans ma classe, là, il y a des limites. Moi, quand ils ressortent dans le corridor, mes jeunes, là, ils retombent dans cette jungle-là où c'est à qui va pas écraser l'autre, là. Hein. C'est comme ça. C'est les adultes qui viennent se promener dans une polyvalente, des fois ils font oh balai, j'avais oublié que c'était à ce point-là. Ça se rentre dedans, mais pas juste un peu, puis pas juste physiquement. Là. Alors, il y a vraiment quelque chose où mais en même temps, c'est juste le pic. T'sais, après ça, on le fait autrement, peut-être à l'âge adulte. Alors, je me rends compte que si on travaille pas sur cette espèce de terrain global-là, à l'échelle sociale et à l'échelle humanitaire, on pédale un peu dans le vide dans nos classes. C'est pas dans le vide, là, ça a un effet, mais ça a un effet limité. Alors, c'est ça mon intérêt, de travailler aussi d'une autre manière. C'est pour ça que je travaille à ce genre de fonctionnement-là, de réunion entre êtres humains ou de table ronde, qu'il soit à la radio, qu'il soit par un manifeste, qu'il soit par un site Internet, par une organisation, mais à tendre des ponts pour que vraiment on se dise les vraies affaires, mais ça c'est un cliché, mais au sujet de notre survie. Puis de qu'est-ce qui peut nous rendre bien comme humanité. Il faut s'entendre sur un minimum comme humanité. On ne peut pas tout vivre chacun à notre manière. Ça ne marche pas.
Est-ce que c'est ce qui t'amène à la radio aussi?
Ben oui, c'est ce qui m'amène à la radio. En fait, que ce soit les médias écrits. Récemment, je faisais une entrevue avec Josée Blanchette au Devoir. J'ai eu la chance, en envoyant mon manifeste et tout ça, elle a voulu me rencontrer, qu'on parle un peu de ce qui se passait au niveau du mat-monde, mais au niveau aussi du travail en général, comme citoyen du monde. Pourquoi il faut établir... Tout le monde s'entend là-dessus. On écoute les dans plusieurs domaines, en sciences comme ailleurs, en écologie, c'est tellement évident qu'on est tous reliés. Bizarrement, on ne l'est pas relié comme citoyen du monde. Concrètement, là, ça n'existe pas. Il y a une réunion de nations, mais il n'y a pas de réunion de citoyens du monde. Il y en a qui disent « Ouais, mais comment on fait? » Ben, on essaye. L'idée, c'est que c'est incontournable. On l'est relié. On ne peut pas marcher chacun de notre bord. C'est explosif à l'échelle de la planète. Alors, c'est tout. T'sais, c'est comme, pour moi, c'est une évidence. Après ça, on part. C'est inconfortable parce que c'est pas encore dessiné. On sait pas trop où on va. Puis on le fait avec les gens, avec les commentaires qu'on reçoit, puis avec ce qui arrive. Là, c'est un peu comme ça.
En tout cas, Benoît, j'aimerais te remercier de te joindre à l'équipe. J'ai ta première chronique est une réussite totale. C'est très intéressant, le sujet que tu abordes. Et je pense que tu es intéressé aussi par des sujets qui nous touchent tous aussi au niveau planétaire, mais plus particulièrement des choses qui nous touchent quotidiennement.
Évidemment, là, la planète, c'est aussi ici. C'est pas la planète. Des fois, quand on parle de ça, on pense qu'on parle de quelque chose de loin. Mais on est des deux pieds dessus, là. C'est juste que c'est aussi ailleurs. Et ça, les multinationales l'ont compris depuis très longtemps. C'est à nous autres, là, maintenant, peut-être, à le comprendre comme citoyens. Alors, à agir dans ce sens-là.
D'ailleurs, j'ai le goût de dire que les OGM, on va sûrement revenir sur le sujet, parce que c'est sûr qu'on n'a pas vidé le truc ce matin.
Oui.
Et que si on n'y revient pas, ça va être comme ce que tu disais.
Là, un autre 10 ans avant un autre reportage.
Un autre zapping, comme tu disais.
Oui, je pense effectivement qu'il y a un problème là dans notre manière de zapper. C'est plus confortable. On aime les nouvelles, la nouveauté, etc. C'est correct qu'on l'aime. Là. On peut vivre aussi de ça. Mais sur les dossiers de fond là, qui regardent notre survie, puis qui regardent comment on s'établit comme humanité là, dans ce royaume-là du vivant, là, c'est pas des nuages, ça. Là, c'est la réalité. Là. On vit sur une planète. Là, c'est comme ça. C'est à cette échelle-là qu'on vit. Il faut le comprendre. Alors, il faut aussi assumer ça, chacun à notre manière, chacun à notre mesure, là, quand on est... Mais on peut faire des petits pas là-dedans. Moi, je n'ai pas commencé du jour au lendemain. Là. J'ai bougé un petit peu, je me suis renseigné un petit peu, je me suis affilié à des gens pour pas être tout seul là-dedans. Puis lentement, ben, j'en apprends un peu plus, puis je bouge un peu plus.
Alors, en terminant, merci Benoît. J'aimerais que tu répètes ton adresse courriel pour les gens qui veulent te rejoindre.
Oui. Alors, pour me rejoindre, vous pouvez m'écrire à Benoît Guérin, tout dans un mot, pas de majuscule, pas d'accent, BENOITGUERIN, @yahoo.com.
Et alors aussi, pour rejoindre l'émission, vous pouvez toujours écrire à radiotonique@live.fr. Alors, live, ça s'écrit LIVE. Ça, c'est typiquement français de donner des noms anglais comme ça, c'est.
Oui, effectivement.
Alors, chers auditeurs, nous revenons la semaine prochaine. D'ici là, passez une excellente semaine. Et à la mise en onde, à la réalisation et à l'animation, Jeannie Audrey Lajoie.
Merci, Jeannie Audrey.
Alors, à la semaine prochaine. Passez une belle semaine.
de conduite Omega a un nouveau département s'adressant aux baby boomers. Vous n'avez jamais conduit? Il n'est jamais trop tard et chez Omega, nous avons un cours spécialement pour les 55 ans et plus. Par contre, si vous êtes déjà conducteur, il se peut que vous ayez acquis de mauvaises habitudes de conduite au cours des ans. Afin d'être au courant des changements de réglementation et de mettre à jour votre technique de conduite, l'école de conduite Omega peut vous aider. Si la Société d'assurance automobile du Québec vous demande de suivre un nouveau cours pour des raisons médicales, Omega a un programme spécialement pour vous. Pour les 55 ans et plus, nouveaux conducteurs ou conducteurs expérimentés, c'est l'école de conduite Omega. 514-271-8306, 271-8306.
Radio Centre-Ville, 102,3 FM, est une radio communautaire qui vous parle en 8 langues. On y traite d'actualité, de musique, de cinéma, de littérature, de vie communautaire, de plein de choses fort intéressantes. Comme on dit chez moi en France, c'est top. Radio Centre-Ville, 102,3 FM. We'll be right back.